Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit si vous voulez découvrir des femmes et des hommes qui osent et qui bâtissent déjà le monde de l'après-crise, mais aussi des entrepreneurs qui se réinventent pendant cette période de confinement. On en parle pendant une heure. À mes côtés, bien sûr, Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Alors on l'oublierait presque, dans un peu plus d'un mois, il paraît que c'est Noël. Comment les géants du jouet se préparent dans cette période inédite? Est-ce que le click and collect peut les sauver? Quand espèrent-ils vraiment rouvrir? Est-ce qu'on commence, nous, un petit peu quand même à acheter sur Internet? Quelles sont les tendances de ce Noël? Bah oui, quand même, on va parler de tout cela jusqu'à 14h avec le patron de la Grande Récré.
À la une, en effet, Emmanuel, les jouets seront déposés, enfin, on l'espère, hein, au pied du sapin. Les vendeurs de sapins se retroussent les manches. Comment vont-ils s'organiser? La pépinière Naudet est sur le pont et son président sera avec nous d'ici quelques minutes.
Elle est la dernière fabrique française de poupées traditionnelles. Petit Colin, ça vous parle sûrement. Vous en avez peut-être à la maison. C'est la saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, les trophées Europe 1 La France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et CCI France ont retenu iMec, un site internet spécialisé dans ce que l'on appelle le do it yourself, c'est-à-dire tout à faire soi-même. Le pitch va-t-il nous convaincre? Réponse 13h45.
Et pendant tout ce confinement, La France bouge vous donne un coup de main, répond à vos questions. Aujourd'hui, on va se mettre à votre place, peut-être à la place du salarié, avec l'Association nationale des DRH. Comment organiser et mieux gérer le télétravail? Comment éviter tout risque de burn-out à la maison? Ce sera aux alentours de 13h50.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, elle bouge quand même, cette France, même si c'est pas simple en ce moment. Exemple, avec ses magasins de jouets, oui, ils sont fermés, mais vous pouvez écrire votre lettre au Père Noël, la poste fonctionne, les jouets, on va en parler, et on a des solutions pour tenter de se projeter dans ce Noël, certes pas comme les autres, mais ça reste quand même Noël, bon sang.
Bonjour Jean-Michel Grimbert.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Vous êtes le président fondateur de la Grande Récré. La Grande Récré, c'est 140 magasins dans toute la France. Alors les magasins de jouets prennent de plein fouet, eux aussi, la crise sanitaire. Nous sommes à un mois et demi de Noël, Emmanuel le disait. Vous n'avez toujours pas d'autorisation d'ouvrir vos portes. Comment allez-vous aujourd'hui?
Alors, déjà, vous dire, la Grande Récré, c'est plus de 1000 salariés, plus de 600 saisonniers qui attendent les décisions du gouvernement. C'est aussi des indépendants, puisque nous avons une cinquantaine de franchisés. Donc aujourd'hui, la situation est vraiment, évidemment, elle est très difficile, non seulement pour la Grande Récré, mais pour tous les spécialistes du jouet, et derrière pour nos fabricants. On a mis en œuvre toutes les solutions pour pouvoir pallier partiellement à la situation et au manque de chiffre d'affaires avec, bien sûr, le digital, mais je pense qu'on pourra développer.
On va y revenir dans un instant. Peut-être juste un point sur ces 600 saisonniers là dont vous parlez, Jean-Michel Grimbert. Vous les avez vraiment embauchés? Là, ils sont à attendre dans vos magasins ou vous attendez pour les faire venir?
Pour l'instant, on attend pour les faire venir.
Mais vous espérez quand même, pour le moment, vous maintenez ces 600 embauches possibles en espérant pouvoir ouvrir.
Oui, on maintient, puisque notre objectif, c'est de servir nos clients le mieux possible. Et quand on obtiendra le droit à rouvrir, évidemment, les gens viendront en nombre dans les magasins. Donc, il faut beaucoup de personnel pour les servir.
Vous avez d'ailleurs envoyé une lettre ouverte au Premier ministre la semaine dernière. Où on vous a répondu?
On nous répond par voie de presse,
par voie de radio. Donc pas de réouverture des commerces avant le 1er décembre, à l'heure où nous parlons. C'est un horizon raisonnable pour vous?
C'est ce qui a été dit, c'est la limite maximale. On espérait réouvrir mi-novembre parce que là, ça nous permet de récupérer le chiffre d'affaires perdu sur la première quinzaine de novembre. Il faut savoir que novembre, c'est pratiquement 20% du chiffre d'affaires annuel et que la première quinzaine de novembre, ce n'est qu'un tiers du mois de novembre. Donc on va vers des très gros chiffres. Et là, il est clair qu'en ce moment, sur des très gros chiffres, le digital ne suffit pas à récupérer le chiffre d'affaires. Hier, par exemple, samedi, le digital a représenté 20% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Vous vous rendez compte? C'est très, très, très faible.
Malgré tout, vous, parce que la phrase était très importante quand le Premier ministre l'a dit la semaine dernière, on pense rouvrir les commerces au moins au 1er décembre. Ça veut bien dire que ça pourrait être plus tard que le 1er décembre. Est-ce que vous avez quand même une forme d'assurance que vous pourrez rouvrir au 1er décembre. J'ai envie de dire, au moins vous, les magasins saisonniers. Est-ce que vous pensez que c'est une piste ?
Bah écoutez, ma seule forme d'assurance, c'est la rationalité et le bon sens. Et de se dire qu'on sait aujourd'hui que le jouet est vraiment un produit essentiel. On voit bien le comportement des clients. On voit les sondages aussi, parce qu'il y a eu des sondages, des enquêtes d'opinion qui ont été faites, qui montrent que 80% des Français considèrent le jouet comme un produit essentiel. Donc évidemment, on espère être traités. Nous et ceux qui ont des produits très saisonniers, on espère pouvoir ouvrir rapidement.
Certains commerçants militent pour une réouverture dans le week-end du 28 novembre. Pour vous, ça pourrait être envisageable, ça ? Est-ce que c'est...
Ah, nous, on est prêts. On est vrai. Il y a des collaborateurs dans les magasins qui préparent des colis aujourd'hui en click and collect. Il y a des personnes qui sont bien sûr en activité réduite. Tout le monde attend le top départ.
Oui, parce que cette date n'est pas choisie au hasard. Hein. Ça vous permettra à vous, magasins de jouets, mais à tout également les vendeurs, de ne pas rater ce qu'on appelle le Black Friday, hein, qui est devenu notamment du côté de la Fnac, du côté d'Amazon et tout autre le plus gros jour de consommation en France. Vous ratez ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déplier un tapis rouge pour Amazon et rater votre saison ?
Le pire, ce serait déjà que Amazon décale et retarde ce Black Friday.
Ça, on sait que
c'est une opération de solde déguisée, il faut quand même le dire.
On sait que ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas décalé.
Il ne faut pas que ce soit le cas, parce que ce serait encore plus pénalisant. Maintenant, nous, on est prêts pour le Black Friday. On a préparé tout un tas de promotions. Et il est clair que si les magasins sont fermés, ça tombera à l'eau.
Mais pourquoi ça tombera à l'eau ? Ça veut dire que le digital n'a pas été enclenché suffisamment ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous aligner sur un géant comme Amazon ?
Non, on peut pas s'aligner. Ça, ce sont des problèmes de... D'abord, il y a d'habitude de clients. Ce sont aussi des problèmes de tuyauterie. Aujourd'hui, faire sur un site d'enseigne 10 fois le chiffre d'affaires, c'est possible. Le faire 30 fois, c'est pas possible. Nos entrepôts ne sont pas adaptés comme ceux d'Amazon, qui sont spécialement des entrepôts de vente à distance. Nos entrepôts, ils traitent aussi de la livraison magasin. Nos transporteurs...
Donc c'est pas pareil du tout ?
Les transporteurs... De toute façon, si vous prenez au niveau de la France entière, comment voulez-vous que les transporteurs s'adaptent à un doublement ou un triplement des demandes sur Internet ? Ça n'est pas possible. Donc il y a un vrai problème de tuyauterie. Et voilà, c'est pour ça que ça n'est pas possible.
Alors, vous étiez quand même un petit peu organisé, parce que du côté de la Grande Récré, vous aviez vu le truc venir. Vous avez un avantage par rapport à Amazon et autres, c'est que vous avez encore un catalogue papier et faire notre liste à la maison avec les enfants, c'est quelque chose que beaucoup de familles aiment encore.
Oui.
Ce catalogue, il est déterminant pour vous permettre de tenir ?
C'est le premier média, on va dire, pour les enfants en fin d'année, devant la télévision. C'est bien sûr là-dessus que... Et pour les parents, c'est aussi majoritairement un outil pour de décision. Et donc, nous avons choisi de le distribuer dans les boîtes aux lettres début novembre. Et nous avons mis également en place, donc non seulement, bien sûr, la possibilité de commander par le site Internet, mais aussi par appel téléphonique.
C'était plutôt que prévu, le catalogue, cette année, début novembre.
Non, en fait, il était un peu plus tard que d'habitude.
Ah, même plus tard que d'habitude, d'accord. Jean-Michel Grimbert, vous restez avec nous, vous êtes le président fondateur de La Grande Récré.
Europe 1.
Et vous êtes au bon endroit, c'est la France Bouche chez Europe 1. Il est 13h17.
À suivre, le Père Noël a besoin de déposer les cadeaux au pied du sapin. Là aussi, les spécialistes des sapins se bougent.
Et on a même trouvé pour vous le plus gros vendeur de sapins de France. Ça s'appelle la pépinière Naudet. Je peux vous dire qu'ils sont sur le front. On va en parler dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et nous parlons donc de jouets aujourd'hui dans la France bouge. Et oui, un mois et demi de Noël, même si les magasins sont aujourd'hui fermés. Pas question de passer un Noël sans jouets. On en parle avec vous, Jean-Michel Grimbert, président fondateur de La Grande Récré. Et à Noël également, il nous faut des jouets et il nous faut des sapins, Elisabeth.
Et oui, bonjour Frédéric Naudet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président des pépinières Naudet dans le Morvan. Vous êtes le plus gros producteur de sapins de Noël de France depuis le début des années 50. Vous approvisionnez la grande distribution ainsi que les jardineries. Alors en cette année inédite, si on a voulu vous avoir dans la France bouge, c'est parce qu'on a envie de savoir comment en ce moment vous vous organisez, comment vous vous réinventez, vous producteur de sapins, à un mois et demi de Noël en plein Covid.
Écoutez, on a déjà dû faire face à un certain nombre d'incertitudes juste au moment où on s'apprêtait à entamer notre campagne de Noël, la campagne qui est le seul moment où on exploite et on fait notre saison, puisque nous, on travaille uniquement et à 100% sur, sur cette période de Noël. Hein. On n'a pas d'autre période pour se rattraper. Et donc, il a fallu très rapidement prendre contact avec les pouvoirs publics parce que les circuits traditionnels de vente du sapin de Noël se trouvaient dans l'incertitude sur la possibilité de vendre ou non des sapins de Noël. Donc, il a fallu prendre contact avec les pouvoirs publics pour leur demander est-ce que oui ou non nos clients qui traditionnellement vendent du sapin de Noël, je pense aux jardineries, je pense à la grande distribution, puis les autres circuits de distribution, parce que je représente aussi l'ensemble des producteurs de sapins de Noël, allaient pouvoir vendre ces sapins.
Alors, ça y est, c'est sûr. Maintenant, c'est à partir du 20 novembre. Le gouvernement l'a confirmé. Est-ce que, du coup, grande distribution, jardinerie, vous ont commandé autant de sapins que d'habitude?
Oui, le niveau de commande de toute la distribution est sensiblement au même niveau que l'année dernière. Donc, c'est déjà
un très gros ouf de soulagement, j'imagine.
Oui, mais ça, on le savait avant de commencer la saison. Donc, simplement, la distribution avait mis un petit peu la pédale sur les livraisons et sur la confirmation de ces livraisons en attendant d'avoir cette certitude qu'ils allaient pouvoir les vendre, et on peut bien le comprendre. Et nous, il fallait qu'on ait la certitude de ces ventes pour commencer l'exploitation et attaquer ces livraisons qui allaient permettre d'avoir ces sapins dans les points de vente pour que nos compatriotes puissent vraiment les avoir en temps et en heure pour pouvoir les acheter et passer des fêtes de fin Noël, de Noël avec ce sapin dans les foyers.
Les commandes, elles ont lieu quand?
Elles ont lieu, on va dire, dans le courant de l'été. Ça commence.
Donc le Covid était déjà là, voilà. C'était pas il y a un an. Est-ce que vous avez maintenu vos prix compte tenu de la crise sanitaire?
Oui, ben, les prix ne bougent pas beaucoup. Vous savez, on est sur un marché qui est stable, avec des prix qui sont stables. Donc, le Covid n'a pas beaucoup d'influence sur ce marché qui est stable en quantité et en prix. Donc, les
prix moyens.
Oui, le prix moyen à la vente est de l'ordre de 27 euros en prix de vente public et il reste stable et il va vraisemblablement rester stable cette année.
Le 20 novembre, c'est vendredi. Vu que vous avez quand même démarré un peu plus tard que ce que vous auriez prévu, j'imagine. En tout cas, il a fallu s'organiser un petit peu dans le stress. Ça va arriver progressivement ou hop, c'est bon, on tient le calendrier comme d'habitude et ce week-end, on peut acheter nos sapins?
Dès ce week-end, tout le monde n'a pas des sapins à la vente le 20 novembre. C'est un début, on va dire, c'est un top départ. Il y a un certain nombre de points de vente qui vont avoir des sapins à partir de vendredi, d'autres qui vont être livrés plus tard. La grande distribution, en général, commence un peu plus tard. Les jardineries vont avoir des sapins un peu plus tôt parce que ce sont des spécialistes et ils ont le végétal en avant. Les grandes distributions commencent en général un petit peu plus tard. Donc, les gros week-ends de vente vont être cette année le dernier week-end de novembre, c'est-à-dire pas celui-là, celui d'après. Et le plus gros week-end sera le premier week-end de décembre et le deuxième, mais le premier week-end de décembre est en général le premier très gros week-end de vente et le plus gros week-end de vente de l'année.
Jean-Michel Grimbert, président fondateur de la Grande Récré, vous ne vendez pas de sapins, vous pourriez le faire?
On pourrait, après vous savez il faut quand même pouvoir ce sont des produits périssables, hein, donc il faut pouvoir les conserver aussi. En règle générale, on a beaucoup de magasins en ville ou en centre commerciaux, donc ce n'est pas forcément évident. Mais nous, on vend surtout ce qui se met sous le sapin.
Et les décorations de Noël, vous en vendez aussi?
Non,
c'est pas notre métier. Parce que ça, pour le moment, ce n'est pas autorisé. Hein, ça fait partie des rayons.
Nous sommes des spécialistes du jouet, on ne peut pas tout faire bien. Il faut bien faire le jouet.
Frédéric Naudet, je rappelle que vous êtes le président des pépinières Naudet. On a beaucoup parlé de la ville de Bordeaux, notamment cette année, qui a renoncé à son sapin géant pour des soucis écologiques. Comment vous répondez à cette aspiration qui monte de plus en plus? Parce que les gens ne le savent pas. Moi, je l'ai découvert récemment. Par exemple, vous n'allez bien évidemment pas couper des sapins comme ça dans la forêt. Ce sont des sapins d'élevage que vous préparez d'année en année pour que le grand plaisir des uns et des autres.
Oui, on avait répondu à cette polémique en temps et en heure. Le sapin de Noël, c'est une culture. Elle est encadrée par un décret. Le producteur sapin de Noël est un agriculteur. La culture de sapin de Noël dure 10 ans. Au bout de 10 ans, on doit vider nos parcelles de sapin et en replanter d'autres. Donc, on peut pas du tout accepter qu'on soit assimilé à des défricheurs ou à des destructeurs de forêt. Ça n'a strictement rien à voir.
Donc, en moyenne, les sapins qui arrivent chez nous, ils ont combien de temps?
Du plus petit au plus grand, ils ont entre 5 et 10 ans. Donc, c'est 10 ans, c'est 10 ans au plus long, c'est 10 ans de culture, de soins, lorsque votre sapin, lorsqu'il fait la taille maximum, c'est-à-dire environ 2 mètres à 2 mètres 50, on le coupe, voilà, c'est 10 ans de soins. Donc, vous imaginez, si on n'avait pas pu faire notre campagne, la catastrophe que c'était pour des exploitations. Donc, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, avec la déforestation. Il faut bien comprendre ça. On le dit tous les ans et on le répète. Bon, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais ça n'a strictement rien à voir avec la déforestation. Le producteur sapin de Noël, c'est un agriculteur. Il fait la culture de son sapin. Au lieu de le faire en un an, comme bien les cultures agricoles, il le fait sur 10 ans. Au bout de 10 ans, il est obligé, c'est une obligation de la loi, de vider ses terrains et il les replante. Donc à chaque sapin coupé, un sapin est replanté. Donc c'est un petit puits de carbone, puisqu'à chaque fois, ce sont des jeunes plants qui grandissent et qui régénère le carbone le produit.
Merci voilà. Frédéric Naudet, président des pépinières Naudet. On vous souhaite un joyeux Noël, même un mois et demi en avance.
Là, on vous souhaite de bien travailler,
et de bien travailler surtout.
De quoi faire.
Jean-Michel... Et moi, je vous en souhaite aussi un très bon retour d'un sapin naturel.
Merci beaucoup et Jean-Michel Grabert. Vous aussi, vous allez avoir beaucoup de travail. Vous en avez déjà en ce moment. Vous êtes à la tête de la Grande Récré et vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h dans cette France Bouge.
Europe 1.
Et Europe 1, il est 13h27. Elle existe depuis 1860 et c'est la plus ancienne fabrique de poupées.
Oui, elle s'appelle Petit Colin, un nom qu'on a peut-être pour certains oublié. Mais on va tout vous raconter dans la saga du jour de La France Bouge dans un instant.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, on est des grands enfants, nous, aujourd'hui, à La France Bouge. On a envie de se faire des cadeaux. On parle donc de Noël. Et pour cela, on est avec l'un des meilleurs invités possibles, puisqu'on est avec Jean-Michel Grimbert, qui est à la tête de la Grande Récré. Alors, bien évidemment, cette période de Covid a tout bousculé ces derniers mois. Est-ce que, malgré tout, vous aviez stocké de la même façon que pour les autres Noëls, même s'il y avait ce risque de deuxième vague qui nous pendait au nez et qui est en ce moment bien compliqué à gérer pour tout le monde?
Oui, d'abord, nous avons pris toutes les commandes qui étaient prévues. Nous stockons. Aujourd'hui, nos entrepôts sont pleins, nos magasins sont pleins, puisque l'objectif, c'était aussi que les magasins soient prêts à accueillir le flux de clients à la réouverture. Il y a du choix. Il y a peut-être cette année moins de choix en matière de produits mode, moins de nouveautés en télévision, mais beaucoup de jouets traditionnels de très, très grande qualité. Et donc, voilà, on est pourvu pour satisfaire nos clients.
Pourtant, il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment. Le panier moyen sera moins important cette année que par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous le constatez déjà dans les commandes ?
Non, pas du tout.
Ah, non. C'est une bonne nouvelle, ça aussi.
Ce qu'il faut voir, c'est que même s'il y a globalement certainement un recul du pouvoir d'achat en France, le pouvoir d'achat disponible pour du jouet, c'est-à-dire pour faire plaisir aux enfants, pour les protéger dans ce marasme général, il est là. Et je pense que beaucoup de parents... vous savez, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. J'ai vu dans des clients en situation économique difficile qui marquaient le Noël parce que un beau Noël, c'est toute sa vie que l'enfant s'en rappelle.
Donc on ne fera pas l'impasse là-dessus. On mettra le paquet.
Vous pensez, pardonnez-moi la question, elle est peut-être un peu bizarre, mais que quasiment vous allez en profiter parce que les gens ont tellement souffert de se retrouver séparés, de ne pas pouvoir se rencontrer et du coup ne pas pouvoir se faire plaisir en s'offrant des cadeaux. Se dire, allez, on est à peu près sûr qu'au moins Noël, on va pouvoir faire une petite fête familiale. On se lâche un peu et on fait vraiment des cadeaux aux enfants. Vous pensez que ça peut être l'état d'esprit ?
Je pense que ça va être l'état d'esprit. Je ne pense pas qu'on en profite, dans la mesure où on a déjà perdu beaucoup de chiffres, donc on espère rattraper un peu. Mais ce qui est clair, le premier confinement l'a montré, c'est que les gens ont aussi plaisir à jouer en famille. Et ça, c'est quand même, ce sont des moments extraordinaires.
Allez, on va faire comme si tout allait bien. Allez, on y va. C'est quoi les grandes tendances de Noël cette année, Jean-Michel Grimbert ?
Je vous l'ai dit, bien sûr, les jouets traditionnels. On a en créatif des jouets extraordinaires. On a une créatrice française qui s'appelle Véronique de Roise qui a sorti un jeu qui est le loto des sons. Elle avait créé le loto des odeurs. Là, avec le loto des sons, vous allez découvrir, l'enfant va découvrir le monde. On a des laboratoires de cosmétiques chez Clémentoni, par exemple. Les robots fonctionnent bien. Le classique, les radiocommandes marchent très très bien en ce moment. Les jeux, alors vous avez toujours le traditionnel Monopoly, cette année c'est le Monopoly avec Super Mario par exemple. Voilà. Et puis bien évidemment, les jouets de cours de récré, même si l'école s'est arrêtée à un moment donné, fonctionnent bien, les poupées LOL, Barbie, Reine des Neiges.
Voilà.
Oui, ça s'appelle pas LOL, c'est LOL.
Ah,
hein.
D'accord. Voilà. Bon,
mais aussi des grands classiques, parce que vous avez peut-être joué avec ça, c'est les Pokémon. Ça marche toujours. Les cartes et les figurines, les Beyblades.
Donc il y a des valeurs sûres, on entend. Les Beyblades, les figurines, tout ça.
Le jeu, c'est un recommencement permanent avec de l'innovation dans les nouveaux produits pour les nouvelles générations, mais c'est un recommencement.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons partir à Étain, dans la Meuse. Là-bas, se trouve la dernière fabrique de poupées en France.
Oui, elle existe depuis 1912. Elle s'appelle Petit Colin et c'est la saga du jour dans La France bouge, racontée par Dora Nana.
Europe 1, La France bouge. La saga.
L'histoire débute en 1860 quand un fabricant de peigne à étang dans la Meuse, Nicolas Petit-Colin, décide de créer un atelier de poupées baigneurs. Il choisit comme logo une tête d'aigle, un choix encore bien mystérieux aujourd'hui. Laurent Vesbuche, président de Villac, à qui appartient Petit-Colin.
J'ai essayé d'avoir les renseignements et on n'a aucune information du pourquoi de cette tête d'aigle. Et on a fait des recherches et j'ai demandé effectivement si quelqu'un savait à un moment donné pourquoi cette tête d'aigle. Et personne n'a su me donner une explication sur ce logo. Mais effectivement, on l'utilise toujours parce que c'est l'histoire de l'entreprise et qui est quand même assez important de conserver cette antériorité.
Très vite, il comprend l'intérêt d'innover et dépose de nombreux brevets.
C'était le premier à créer des yeux dormeurs, c'est-à-dire que les yeux se fermaient lorsqu'on couchait le bébé. Et il y a eu de nombreux brevets qui avaient été déposés à cette époque pour ce petit baigneur.
Avec un petit secret pour séduire les enfants.
On utilise un composant qui donne une odeur de vanille. Donc tous nos baigneurs ont une odeur de vanille qu'apprécient effectivement énormément les enfants car ça leur rappelle une certaine douceur et c'est plutôt agréable d'avoir une odeur de vanille plutôt qu'une odeur de plastique assez brute, quoi.
Un succès qui va durer jusqu'aux années 60, suivront des années plus difficiles. La marque décline jusqu'à son rachat en 1995 par l'entreprise Villac, un fabricant de jouets en bois dans le Jura. La fabrique et ses 15 salariés ouvrent alors ses portes au public et en 2007, consécration, ils reçoivent le label Entreprise du patrimoine vivant.
C'est un label qui est plutôt très apprécié, notamment à l'export, et qui nous permet effectivement de mettre en valeur ce savoir-faire qui est assez unique, car nous sommes vraiment les derniers fabricants de petits baigneurs de poupées en France, alors qu'effectivement, on parlait des années 60, il y en avait plus d'une cinquantaine de fabricants, mais on a réussi à conserver cette fabrication française et on est effectivement vraiment les seuls à pouvoir encore faire ça.
Petit Colin se lance alors dans une démarche durable.
On a sorti un modèle Ecolodoll qui nous permet d'avoir une poupée qui, entre guillemets, est complètement recyclable de par ses différents types de matériaux, que ce soit aussi bien le corps qui est fait avec de l'amidon et là aussi avec des tissus qui sont aussi recyclables.
Aujourd'hui, Petit Colin travaille avec de grands créateurs.
Et on a fait des poupées pour dire, on a fait même des collaborations par exemple avec certains musées, le musée de Versailles, on a fait des collaborations comme ceci.
Et réalise une grande partie de son chiffre d'affaires à l'export grâce à Internet.
Un des premiers pays qui est très friand de notre marque, c'est par exemple la Russie, qui adore effectivement le savoir-faire, notre touche française, et aime beaucoup les poupées Petit Colin.
Une société qui reste confiante en l'avenir, qui au premier trimestre a connu une forte demande, plus 10%, notamment grâce à Internet.
Alors Jean-Michel Grimbert, je rappelle que vous êtes à la tête de La Grande Récré. Je crois que Petit Colin, c'est pas encore vendu chez vous, mais c'est pour bientôt, c'est ça ?
Ah, c'est pour bientôt. La marque a été rachetée par M. Vesbuche il y a quelques temps. Il est en train de la moderniser, comme il explique. Et donc, c'est des produits qui pourront bien sûr venir dans notre collection. Et on commencera par l'Internet en 2021.
D'accord, donc
Petit
ça va
Colin
bientôt
arriver. Petit Colin sur digital, deux mondes qui vont se réunir.
Oui, parce que ça touche les enfants, mais ça touche aussi les collectionneuses, les dames de tous âges, qui confectionnent même souvent des habits d'ailleurs.
On l'entend, hein, là, ils sont positionnés sur le Made in France. C'est une tendance dans le jouet maintenant depuis quelques années. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est purement médiatique, cet engouement pour le Made in France dans le jouet ?
D'abord, ça marche. Et puis, vous savez, on est un pays avec quand même beaucoup d'entrepreneurs très créatifs. Maintenant, en poids économique, c'est à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça, bien sûr, ça, on ne pourrait pas ne vendre que des jouets français. Mais encore une fois, je vous dis, il y a énormément de sociétés qui se créent et ça en entraîne d'autres. Il y a une vraie belle dynamique qui, en ce moment, souffre énormément aussi de la situation que nous subissons.
Est-ce qu'il y a une demande ? Est-ce que vous constatez une demande de la part des parents quand ils rentrent maintenant dans les magasins ? Je préférerais avoir un jouet fabriqué en France où on sait d'où vient le bois. Est-ce qu'il y a cette demande qui émerge ?
Ça n'est pas généralisé, mais il y a une avant-garde qui est de plus en plus large, qui effectivement a ces demandes. D'une façon générale, les clients sont en recherche de sens. Ils ont besoin d'avoir des réponses, à la fois le bon rapport qualité-prix, à la fois bien évidemment quel va être l'usage fait du produit, et puis en tant que citoyen aussi, finalement, qu'est-ce que représente le produit au plan économique et social.
Mais sur La Grande Récré, il n'y a pas un engagement particulier sur le Made in France ?
Non, nous, il y a un engagement de proposer aux clients le meilleur pour l'enfant. Bien évidemment, et dès qu'on trouve un produit en Made in France, on va le va le travailler.
Alors avec Elisabeth, bien évidemment, on a fait nous aussi notre liste au Père Noël. On a donc feuilleté votre catalogue. J'ai vu que cette année encore, et peut-être plus que les autres années, vous avez beaucoup insisté sur le non-genré. Les garçons en rose, les filles en bleu, des filles avec des camions, etc., etc. On en avait beaucoup parlé il y a quelques années. Est-ce que c'est véritablement entré dans les faits? Est-ce que c'est vraiment un choix des parents?
Non, ça n'est pas du tout un choix des parents. C'est un choix politique. Donc aujourd'hui, nous respectons les règles. Il y a une charte qui a été signée avec le ministère pour effectivement éviter de genrer. Je pense que sur certains aspects, c'est tout à fait légitime. Quand on est les petites filles à des produits créatifs et les garçons à du scientifique ou autre, ça marche plus aujourd'hui. Il faut libérer, ouvrir les esprits de tout le monde. Après, sur la question des couleurs, c'est un autre sujet. Nous sommes là pour accompagner la société.
Mais en tout cas, dans vos magasins, vous ne voyez pas plus que ça une demande?
Non, les parents parlent d'enfants, de garçons ou de filles.
Alors justement, dans vos magasins, vous aviez essayé de complètement les réinventer, puisque la Grande Récré avait rencontré de grosses difficultés il y a de ça maintenant 2 ans.
Oui.
Vous vouliez faire de vos magasins des mini-parcs d'attractions. Plus que jamais, j'imagine que c'est indispensable pour vous différencier par rapport à Amazon dont on parlait par exemple tout à l'heure.
Oui, il y a deux choses. Moi, je crois beaucoup au commerce humain. C'est-à-dire le commerce qui est capable de développer une relation qui donne du sens et qui est fondée sur des vrais engagements. Mais... je parlais de rendre service aux clients, je parle de sélectionner le meilleur du jouet pour l'enfant. Ça, c'est fondamental. Et faire en sorte aussi que les jouets vivent. Donc, il faut faire de la démonstration. En ce moment, avec les règles sanitaires, ça n'est pas possible, mais c'est un axe. Et puis, nous avons un nouveau concept qui ouvrira au premier semestre 2021 d'un nouveau magasin, très grand format, où on mélange le magasin de jouets et le parc d'attractions.
Ce sera où ?
Ce sera à Marseille, centre-ville, à Bonneveine.
En tout cas, si vous aimez les sagas d'entreprise, si vous aimez les histoires de famille, eh bien on vous propose chaque jour d'en écouter sur Europe 1, mais également de les retrouver dans Marque de famille. C'est le nouveau podcast d'Europe 1 que vous portez, hein, Elisabeth Assayag. Et aujourd'hui, qui se cache derrière le fabricant de meubles Lingrosay ? C'est le dernier épisode qui est sorti là aujourd'hui. Il est tout frais pour vous. Un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et bien évidemment sur l'un des meilleurs sites de France. Ça s'appelle europe1.fr.
Jean-Michel Grimbert, président fondateur de la Grande Récré. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. Et pour le moment, elle est tout juste en règle la montre, 13h41.
Direction les trophées Europe 1. La France bouge, une idée, un projet et un pitch avec CCI France.
Aujourd'hui, ça s'appelle iMake en bon français. Tout faire soi-même, c'est ce que va nous raconter la fondatrice de cette plateforme. Allez, à tout de suite pour le pitch.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
13h43, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge chaque jour. Elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et toujours quand même très exigeant. Attention, notre témoin du jour, aujourd'hui Jean-Michel Grimbert, le président fondateur de la Grande Récré.
Et dans ces moments de crise, c'est aussi parfois le moment de se lancer. Et c'est ce que vous avez fait, Elodie Abécassis, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes la fondatrice de iMake. C'est iMake ou iMake?
iMake.com,
qui est une entreprise qui propose des fournitures et des conseils pour tout faire soi-même. Vous l'avez lancé donc l'année dernière. Hein. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est parti. Vous avez une minute pour votre pitch.
Oui. Donc iMake est un site internet, une marketplace qui rassemble toutes les fournitures pour tout faire soi-même. Plus de 70 000 produits. Donc par exemple, si vous avez envie de faire vos vêtements, la mercerie, votre déco, des bijoux DIY, des activités pour enfants, des activités créatives et manuelles. Pourquoi ? La société de consommation est en train de changer. Les gens ont envie de consommer moins, mais de consommer mieux. Ils vont vers une consommation plus responsable. Et le fait de faire soi-même, donc le do-it-yourself, est une vraie solution. Ça repose sur 4 piliers. Un pilier écologique, un pilier économique, un pilier aussi d'authenticité et un pilier de transparence. Et enfin, le do-it-yourself est vraiment une façon de répondre à ce besoin. Il n'existait pas aujourd'hui de site internet qui soit le site de référence du do-it-yourself. Et donc la promesse d'iMake, c'est de tout trouver pour tout faire soi-même.
Eh bien super, moi j'ai une toute mini question. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé ça do-it-yourself du coup plutôt que iMake ?
iMake, alors c'est vraiment l'acte, alors on aurait pu, pourquoi pas, mais c'est vraiment l'acte de je fais.
D'accord.
C'est aussi un acte engagé, un acte militant de faire plutôt que d'acheter.
Mais on fait quoi quand vous dites on peut tout faire,
alors,
par exemple ?
Faire ses vêtements, faire ses bijoux. Faire sa déco soi-même. Donc là, si vous avez envie en ce moment de décorer votre maison pour Noël, bah, vous allez créer vous-même votre déco.
Et vous faites tout chez vous, faites comme ça ?
De plus en plus de choses. Donc par exemple, faire ses cosmétiques soi-même, faire ses produits d'entretien, faire sa déco avec des fleurs séchées plutôt que d'acheter des bouquets qu'on va jeter, etc. Et petit à petit, en fait, c'est un rythme à prendre. On va commencer peut-être par juste faire son shampoing, par exemple, et puis petit à petit, on va se mettre à faire aussi ses produits d'entretien, faire ses vêtements, faire du tricot, de la broderie, du crochet. Voilà, c'est très, très large.
Alors, Élodie, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour, Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel,
bonjour Elodie.
Vous êtes notre experte, hein, Nathalie Carré, vous êtes chargée de l'entrepreneuriat à la CCI France. Vous avez des petites choses à nous dire hein, sur iMake, les forces,
oui,
les faiblesses.
Trois points positifs. D'abord, vous êtes sur un marché en forte croissance. 8 Français sur 10 sont adeptes du faire soi-même, du do it yourself. Donc, a priori, pas Elisabeth. Hein, donc, on met 8
Moi,
sur 10 quand
même.
Moi, je
fais ma lessive tout seul.
Mais si, qu'est-ce que vous en savez, Nathalie? Non, mais c'est quoi ces préjugés là?
Ensuite, les tutoriels que vous proposez avec des choses à créer qui sont simples et d'autres plus complexes. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde et on peut progresser au fil des semaines. Troisième point positif, le prix des produits que vous vendez qui sont plutôt plus bas que dans certains magasins spécialisés. Je dirais un point amélioré, c'est le marketing avec 2 sujets. Il n'y a pas vraiment d'offres en fait, il y a juste des produits à vendre. Pour augmenter vos revenus, vous pourriez peut-être imaginer des offres par un niveau d'expérience par exemple. Vous venez de le dire, on commence par ça, puis après on progresse. Donc on est apprenti, puis on finit expert. Et vous pourriez vendre des packs avec X tutos, et puis là, par exemple la liste des courses à faire, et un accès à la communauté par exemple pour avoir de l'aide. Et puis votre slogan, des dizaines de milliers de produits pour tout faire soi-même, c'est pas assez percutant et surtout, ça reflète pas tout ce que vous voulez véhiculer. En général, on fait du do-it-yourself pour avoir un moment de bien-être, être fier du résultat. Vous augmentez ce temps de détente en simplifiant l'achat des fournitures. C'est important de mettre cet argument en avant. Vous n'êtes pas juste une boutique en ligne. Vous donnez du bonheur aux gens.
Ah, qu'est-ce que vous répondez à vous donner du bonheur aux gens, à Nathalie? C'est vrai, il faut.
C'est vrai.
Voilà, le do-it-yourself, il faut que ce soit un peu du tout est prêt pour être utilisé.
Exactement. Le plaisir, il réside vraiment dans le temps de création, le temps que l'on passe à créer, à faire soi-même, plutôt que dans le temps d'achat, le temps de shopping. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu créer iMake, c'est pour simplifier en fait la démarche d'achat. Pour tout trouver au même endroit, plutôt que de passer beaucoup de temps sur l'achat et moins sur la réalisation. Mmh. Et c'est pour ça aussi, vous l'avez bien vu, Nathalie, qu'on a toute cette partie tutorielle, en fait, qui est la partie brand content, la partie contenu, qui est très importante pour moi, qu'on a lancé presque avant le site, en fait, sur Instagram notamment, où on a des lives tous les week-ends, complètement gratuits pour l'instant. Hein. L'idée, c'est quand même le partage de l'expérience, où vous apprenez pendant une heure à coudre une jupe ou à faire votre lessive.
Plein de choses, Nathalie. Hein.
Et moi, j'ai un point important là-dessus, parce qu'on va avec Elisabeth, on est bien évidemment allé voir votre plateforme. Je trouve que, par exemple, dans les recettes de cuisine, on nous dit si c'est facile ou pas facile à faire. On nous dit combien de temps ça prend. Et je trouve que sur votre site, ça manque un peu. En tout cas, moi qui ne suis pas très doué en bricolage, à l'exception de ma lessive, vous l'avez compris. C'est vrai que je trouve que ça me manque l'idée de me dire si c'est accessible ou pas accessible facilement.
Oui, comme dans les recettes de cuisine avec des petites étoiles, 1 facile, 5 difficile.
Oui. Effectivement, ça fait partie des évolutions qu'on aimerait mettre en place et également le temps de réalisation aussi. Beaucoup de gens nous demandent est-ce que ça prend plutôt 10 minutes ou plutôt 1 heure. Donc, la méthode des recettes. Après, c'est vrai que c'est très variable suivant votre niveau. Si vous,
c'est sûr, avec moi, on va passer
mais effectivement,
du temps.
On a beaucoup de contenu que vous pouvez retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux.
Jean-Michel Grimbert, président fondateur de La Grande Récré, ça vous inspire quoi, iMake? C'est dans l'air du temps, non?
C'est créatif, c'est une niche. Donc, on va dire que c'est, tel que c'est abordé, ça me semble un territoire assez protégé. Je dirais simplement une chose, gardez votre spécificité, attention à ça. Et puis, ce qui m'éblouit, c'est la personnalité de cette dame qui est d'une énergie extraordinaire. Donc, vous avez une vision, vous avez une personnalité. Ça fait partie de votre ADN d'entreprise maintenant et il faut aussi le préserver.
Est-ce que vous aussi, dans le jouet, le do-it-yourself, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner de plus en plus, les loisirs créatifs, fabriquer des choses à faire soi-même à la maison? Est-ce que c'est un marché porteur chez vous aussi?
Écoutez, le premier confinement a montré un développement extraordinaire des puzzles. C'est déjà du do-it-yourself, bien sûr. Il y a une reprise aussi de la maquette plastique. Et puis pour les enfants en créatif, les fabricants aujourd'hui proposent des kits où tout est, qui évite d'aller chercher les pièces détachées une par une. Mais oui, il y a une tendance claire.
Il y a une tendance qui se dégage. Merci à vous en tout cas, Elodie Abécassis. Hein, vous êtes la fondatrice de iMake. Nathalie Carré, on vous retrouve demain.
À demain.
À demain, Nathalie.
À demain, Nathalie. Si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Jean-Michel Grimbert, président fondateur de La Grande Récré, suite et fin de notre émission. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Et il est 13h50 sur Europe 1.
Dans un instant, on répond à toutes vos questions. On vous aide en cette période de confinement et c'est la mission aussi de la France Bouge.
Oui, et on va s'intéresser au télétravail. Comment ça se passe chez vous et surtout comment on fait pour que ça se passe bien.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France Bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes aujourd'hui avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. Pendant toute la durée de ce deuxième confinement, on vous donne des conseils, que vous soyez entrepreneur ou salarié.
Aujourd'hui, on va se placer du côté du salarié. Peut-être que vous êtes en télétravail et que vous êtes en train de nous écouter. Alors justement, nous sommes avec vous, Benoît Serre, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, directeur de ressources humaines. Comment, en ce moment, en période de confinement, comment fait-on pour manager des équipes qui, elles aussi, sont en télétravail ?
Alors, effectivement, c'est un vrai changement de rythme. Contrairement à la période normale, où on est plutôt sur un modèle présentiel, on va être obligé de modifier la manière dont on a des relations avec les équipes. Alors les relations du coup sont de deux ordres. Vous avez des relations classiques de type professionnel, mais dans ce cas-là, il faut être beaucoup plus précis sur ce qui est demandé. Il faut être beaucoup plus clair sur ce qui est attendu, parce que vous pouvez pas rattraper une imprécision dans votre demande à l'occasion d'un café dans un couloir. Parce que voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis vous avez la deuxième dimension, qui est la dimension individuelle. S'assurer que vos collaborateurs vivent correctement cet éloignement physique du lieu de l'entreprise.
C'est quoi vivre correctement un éloignement?
Vous avez des gens. Alors vivre correctement, vous avez plusieurs. Vous avez des gens d'abord qui souffrent quelquefois d'un sentiment d'isolement ou d'avoir l'impression, on va dire, de pas faire partie de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas de contact informel avec cette entreprise. Mmh. Et puis il y a une autre catégorie qui, elle, est une catégorie qui a besoin d'être plus motivée que d'autres quand ils sont pas dans l'entreprise. Mmh. C'est des gens qui s'auto-allument pas, si vous voulez. Mmh. Ils ont besoin d'un collectif, en règle générale, pour démarrer, pour recommencer à bosser le matin. Et donc là, il faut s'assurer qu'effectivement, ces gens-là trouvent quand même des moyens de s'auto-motiver.
On sait, après ce premier confinement, qu'il y a eu pas mal de sentiments de quasi-burn-out, parce que, bah justement, sentiment de solitude, sentiment de ne plus être dans une équipe, sentiment pour certains de ne pas servir à grand-chose à distance. Comment on peut déceler, quand on est manager, les premiers signes de cet éloignement ?
Alors, la première chose à faire, je crois, en tout cas, c'est ce que font les managers avec qui on travaille, c'est de prendre des nouvelles de son équipe, en fait.
Mais comment on fait sans vouloir être trop intrusif, non plus ?
Tout simplement, de savoir comment ils vont. Mmh. Ensuite, vous avez quelques petits signes intéressants. Quand les gens commencent à vous dire qu'ils sont fatigués, quand les gens commencent à être en retard aux réunions que vous provoquez, par exemple, ou quand, au contraire, ils ont une espèce de suractivité. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à multiplier les calls et à dire « mais moi j'ai des calls de ce matin 8h jusqu'à ce soir 8h ». Ça, c'est des petits signes comme quoi la personne n'arrive plus à créer de la distance entre son travail et elle, et entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mmh.
Donc il faut effectivement surveiller tout ça. Vous, ça vous inquiète ? Vous avez des remontées en ce moment que psychologiquement, ce deuxième confinement, pour ceux qui sont contraints d'être en télétravail, est plus dur que le premier ?
Oui, on a pas mal de remontées comme ça, à la fois parce que certains ont eu l'expérience du premier, et par conséquent, ils en ont vu des avantages, mais aussi des inconvénients, donc ils ne veulent pas le revivre. Et la deuxième caractéristique, c'est que ce deuxième confinement a un peu cueilli tout le monde, un petit peu à froid, et que le niveau d'inquiétude sur votre emploi, votre avenir, qu'est-ce qu'on en entreprise va devenir, est plus fort qu'avant. Et puis la troisième raison, c'est que en mars, si vous voulez, on avait mis en place le télétravail sur la base d'entreprises qui fonctionnaient bien, donc d'une certaine manière, elles étaient sur leur lancée, avec des projets. Là, aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas vraiment de projet depuis mars, qui sont dans une position d'attente. Et donc, vous pouvez avoir, non pas des burn-out, mais des bore-out, c'est-à-dire une espèce de sous-activité, une difficulté à nourrir vos collaborateurs en télétravail.
Des sous-activités qui font qu'ils peuvent se sentir inutiles en ce moment. Merci à vous, hein, Benoît Serre, hein, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. On va vous retrouver tout au long de ces jours-ci pour se placer du côté du salarié et sur cette façon de vivre le télétravail.
Un grand merci Jean-Michel Grimbert de nous avoir accompagnés pendant cette heure sur Europe 1, pendant cette France Bouge. Je rappelle que vous êtes à la tête de la Grande Récré, Elisabeth et moi, on se permet de vous souhaiter un un bon Noël, parce qu'on a vu qu'il faut rouvrir pour que ça tienne pour cette période de Noël, mais ça va fonctionner, rassurez-vous.
Très bon Noël à tous les Français, merci de leur confiance.
Et merci à vous Emmanuel, on se retrouve demain à 13h, on va parler de quoi demain?
On a les jouets, on a le sapin de Noël, il nous manque ce qu'il faut manger pour Noël, ce sera le patron de Super U, demain notre invité.
À demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.